Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à toutes et à tous.
Dans les journaux ce matin, question de génération.
Oui, génération désenchantée, comme dans la chanson de Mylène Farmer, même si le JDD se doute bien qu'elle ne doit pas leur dire grand-chose, cette chanson d'il y a 30 ans, aux gamines et gamins de maintenant. Pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit, quand on découvre cette enquête Ipsos auprès des 10-15 ans. Désenchantée, oui, quasi déprimée. Quand on leur pose la question « D'après toi, le monde de demain sera-t-il meilleur ou moins bien qu'aujourd'hui ?» ils répondent « Moins bien » à 56%. Une majorité donc, avoir un avenir sans grande espérance, à l'âge en principe d'une certaine insouciance. Les voici préoccupés, surtout les filles, d'abord par le changement climatique à 48%, puis vient la pauvreté, le terrorisme, la crise sanitaire, le racisme. Bon, difficile en même temps de ne pas les comprendre quand le JDD fait sa une sur le chiffre qui fait peur, 500 000, comme 500 000 morts redoutés en Europe par l'OMS sur le front du Covid, ou quand le Télégramme vous parle de la montée des eaux en Bretagne et que le Parisien publie des photos spatiales de Thomas Pesquet pour vous dire que la planète va mal et que ça se voit d'en haut. Alors, vers qui se tournent-ils, nos futurs adultes? Quels sont celles et ceux qui les inspirent malgré tout? En tête, les influenceurs. Oui, l'importance des réseaux sociaux, vous dit Ipsos, devant les chercheurs, les médecins, les artistes, les politiques, n'y pensez même pas. Ils sont tout au fond du classement. Ce n'est guère mieux d'ailleurs pour les journalistes, avant-dernier. Alors, faut-il y voir la conséquence d'une pré-campagne présidentielle qui nous saoule? De bruit et de polémiques, c'est le titre du journal Le Monde. Nous rêvions de grands débats. Nous voici avec des clashs et une obsession migratoire. Bref, tout est chaos.
Après Mylène Farmer, vous citez un autre chanteur, Renaud.
Parce que c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ou la femme d'ailleurs. Voici l'une des concurrentes de la Transat, Jacques Vabre, dont le nom de famille est synonyme de respect infini pour les voileux du monde entier. Elle s'appelle Marie Tabarly, 37 ans, oui, la fille du grand Eric, qui se confie un peu dans le Télégramme. Jeune femme pudique et charismatique, qui avait plutôt choisi, elle, le monde des chevaux, mais sans jamais tout à fait lâcher la barre. Caractère trempé, cette famille, quand le Télégramme lui demande si elle n'en a pas marre qu'on lui parle tout le temps de son père, Marie Tabarly répond « Pour les questions perso, oui, ça me gonfle ». Mais ce qui la gonfle aussi, c'est quand elle voit que certains concurrents ne savent même pas que les ballasts, les carènes plates ou la chaussette à spi qu'ils utilisent ont été inventés par son père. Oui, on est tous là un peu grâce à lui, dit-elle. C'est le taulier, je suis la fille d'Éric, mais je suis aussi la fille de Jacqueline. Je suis enfin tout ce que je fais, moi. Qu'on se le dise, Marie Tabarly trace sa propre route.
Une route et des doutes ce matin.
Faut-il partir vers l'ouest ou mettre le cap à l'est? Telle est la question délicate, choix cornélien pour les skippers de la Transat. Et on les voit soucieux devant leurs cartes, perplexes en écoutant le briefing météo. Yannick Bestaven, François Gabart et les autres dans les pages de Sud-Ouest à se demander où se trouve la voie royale, celle qui les fera arriver plus vite, plus fort en Martinique. Et le journal de résumé, simplement l'équation. Si vous choisissez l'ouest, il y a plus de vent, mais la route est plus longue. Si vous filez à l'est, en revanche, c'est plus court, mais ça souffle moins. Et pourquoi alors ne pas choisir une voie moyenne, un genre de « en même temps maritime » Ce n'est pas une option, prévient Sud-Ouest, parce qu'au milieu de l'Atlantique, en ce moment, il y a un anticyclone, pétole, c'est pas bon. Alors forcément, on se gratte la tête, on en rigole aussi. Comme quoi, vous pouvez avoir des bateaux ultra perfectionnés, des satellites ultra précis. Il faut savoir aussi écouter son instinct, sa petite musique. Tenez. Ça me fait penser au dernier numéro de Jazz Magazine, consacré à un monument qui a sa statue d'ailleurs à la Nouvelle-Orléans. Disparu il y a un demi-siècle cette année, il chantait, jouait de la trompette, précurseur puis populaire. Il s'appelait Louis Armstrong. Eh bien j'apprends qu'en 67, l'artiste a bien failli ne jamais enregistrer une certaine chanson qu'il adorait pourtant. Sauf qu'à l'époque, son entourage la trouve beaucoup trop éloignée de son répertoire. Pensez donc, une balade avec des violons, c'est pas du tout swing. Le patron de la maison de disques veut interrompre la séance carrément. Louis Armstrong tient bon, il acceptera même d'être payé au tarif syndical, $250. Cette chanson, il la veut. Et vous savez quoi? Je pense qu'il avait un peu raison. I see
trees of green. It's a wonderful world. Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world, dans la revue de presse de Jean-Philippe Ballas, qui est capable de nous faire écouter Mylène Farmer.
Tout est chaos à côté. Et The Wonderful World.
Soyons éclectiques.
De Louis Armstrong. Merci Jean-Philippe Ballas.